Bon, alors Bernard, on va parler de ce projet de loi du ministre Jolin Barrette, là, les nouveaux pouvoirs que le Québec va avoir en matière d'immigration.
Voilà. Alors, c'est un projet de loi, Paul, qui compte des mesures qui font largement consensus. Par exemple, l'idée de sélectionner dorénavant nos nouveaux arrivants pour combler les besoins de main-d'œuvre que nous avons, ça, tout le monde salue ça. Bon, les 18 000 dossiers qui sont annulés, ça, c'est sûr qu'il va y avoir un coût humain. Là, il y a des espoirs déçus, il y a des gens qui se sont engagés dans un processus depuis un certain nombre d'années qui vont soit recommencer, soit renoncer.
Aussi, ben oui, c'est sûr.
C'est sûr. D'autant, ben alors, ils vont peut-être renoncer parce que justement, ils n'auront pas les qualifications voulues pour être sélectionnés en fonction du nouveau processus qui met l'accent sur on en a-tu besoin quelque part dans une entreprise au Québec? Bon. Mais là où vraiment il y a quelque chose de très controversé, c'est la partie du projet de loi dans laquelle Jolin Barrette dit « Moi, je veux avoir les pouvoirs, je veux que le Québec ait les pouvoirs d'imposer des conditions aux nouveaux arrivants pour l'obtention de la résidence permanente. » C'est très technique, surtout à 7h04 le matin. Mais en résumé, quand le Québec sélectionne un nouvel arrivant, il donne un certificat de sélection. Le nouvel arrivant débarque, mettons, à l'aéroport. Et là, à l'aéroport de Montréal, mettons, il reçoit sa résidence permanente du fédéral. OK? Et là, Jolin Barrette, dans son projet de loi d'hier, dit « Moi, je voudrais pouvoir imposer des conditions à l'obtention de la résidence permanente. » En d'autres mots, tu l'aurais, mais tu l'aurais conditionnement à, par exemple, ton installation en région. Ou encore, conditionnellement à la réussite d'un test de français ou d'un test de valeur. Et donc, là, il rentre sur le terrain du fédéral, parce que c'est la résidence permanente, ça relève du fédéral. Et ce que Jolin Barrette dit, il dit, écoutez, moi, là, je demande au fédéral d'accepter, par règlement, de me donner ce pouvoir-là d'imposer des conditions. Et il a eu sa réponse. J'ai appris que quelques heures après le dépôt du projet de loi, le cabinet de Justin Trudeau est entré en communication avec le cabinet de François Legault. Et le message, on ne peut plus clair, que Québec a obtenu d'Ottawa, c'est « ça ne fonctionnera pas ». On vous le dit tout de suite. Ce que demande Jolin Barrette, de rendre conditionnelle la résidence permanente à un certain nombre de choses, ça ne fonctionnera pas. Et pour être bien sûr que Québec comprenne le message, non seulement le cabinet de Legault a été appelé par le cabinet de Trudeau, mais le cabinet du ministre fédéral Dominique Leblanc est entré en communication avec le directeur de cabinet de Jolin Barrette, M. Robert Duprat, qui lui a passé le même message. L'équipe de Dominique Leblanc a dit à l'équipe de Jolin Barrette, oubliez ça. Et sais-tu quoi? Ils ont peut-être le droit d'être déçus, mais ils n'ont pas le droit d'être surpris à Québec. Parce qu'il y a quelques semaines de ça, il y a eu une rencontre entre hauts fonctionnaires de Québec et d'Ottawa, il y avait des responsables politiques de Jolin Barrette, de Dominique Leblanc qui étaient dans la salle. Je pense qu'il y avait même pendant un moment un représentant du bureau de Justin Trudeau dans la salle. Et l'équipe du Québec a présenté, dans le fond, les grands principes du projet de loi déposé hier à la gang d'Ottawa. Puis là, la gang d'Ottawa se sont regardés puis ont fait comme « non, non ». En tout cas, il y avait beaucoup de questions et c'était très clair le message du gouvernement fédéral que ça pouvait pas fonctionner.
OK, mais d'abord, juste vous dire que le ministre sera avec nous tantôt, là, dans une quinzaine de minutes, mais le seul changement, d'après toi, là, c'est quoi? C'est que il peut scraper dossier puis dire « je recommence ».
D'une part.
Mais sans critères.
Comment sans critères?
Mais est-ce qu'il peut mettre, d'après ce que tu sais d'Ottawa, est-ce qu'il peut quand même fixer des critères, genre vous allez vous établir en région, genre vous allez faire ci, vous allez faire ça?
Bon, écoute bien. Pour ce qui est du certificat de sélection, le Québec peut faire ce qu'il veut. Le Québec peut effectivement bousiller les 18 000 dossiers puis dire dorénavant, on va recruter en fonction des besoins du marché du travail. Ça, il n'y en a pas de problème. Si t'es un des 18 000, il y en a un problème, là, mais je veux dire, le Québec a le droit de faire ça sans demander l'avis d'Ottawa.
OK?
Ce qui se passe présentement, c'est que Ottawa et Québec, ils travaillent sur une autre voie pour faire venir des gens chez nous pour recruter à l'étranger. Et cette autre voie-là, ce serait une espèce de voie hybride qui ferait en sorte que tu pourrais faire venir quelqu'un en fonction d'un permis de travail OK? Tu viendrais ici pendant un an ou deux, tu aurais le droit d'amener ta famille, mais il faudrait que tu sois parrainé par un employeur, OK? Et là, Ottawa serait ouvert. Puis on m'a l'a encore réitéré hier. Ottawa serait ouvert en vertu de ce nouveau processus, nouvelle voie d'immigration, à ce que Québec fasse passer un test de français ou un test de valeur. Il serait ouvert à ça en vertu de ce nouveau système qui pourrait être mis en place. Parce que dans le fond, Paul, actuellement, là, quand le Québec recrute là, à l'étranger, là, avant d'émettre le certificat de sélection, là, il pourrait très bien décider de faire passer un test de français ou un test de valeur. D'ailleurs, quand il recrute présentement, il y a des points qui sont donnés si tu parles le français. Alors, dans son champ de compétences, le Québec pourrait déjà imposer un test de français et un test de valeur s'il voulait. Et en vertu de la nouvelle formule sur laquelle il travaille, dont on n'entend pas beaucoup parler, mais je t'en ai déjà parlé, moi qui travaillais là-dessus, puis je te réitère, je l'ai fait encore hier soir, travaillez-vous là-dessus? Oui, il y a beaucoup d'ouverture à Ottawa. Mais en autant que Québec reste dans son carré de sable, qu'ils ne viennent pas se mêler de ce qui regarde Ottawa, c'est-à-dire la résidence permanente. Et cette opération-là d'hier, ce que ça me fait dire, Paul, c'est au-delà des principes et des nouvelles affaires qu'il met en place qui ont bien d'allure, là. Moi, je pense qu'hier, il y avait en quelque part une opération politique de la part de Jolin Barrette. Jolin Barrette puis le gouvernement Legault savent très bien que Trudeau va lui dire non. Mais ils vont quand même de l'avant avec leurs propositions. Et moi, je pense qu'ils savaient qu'ils allaient se faire dire non. Et je pense que c'était en quelque part voulu. Parce qu'ils veulent être capables de dire « Ah, on vous avait promis un test des valeurs, mais ça dépend d'Ottawa pour le mettre en place. Puis vous avez vu, ils nous ont dit non, fait que c'est pas possible. »
OK, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire pour les gens qui, comme tu dis, la deuxième voie, là, qui auraient un permis de travail, mais on peut pas le faire dans le cadre du processus d'immigration pur. Là.
Exactement. Le processus qui prévoit l'octroi d'une résidence permanente, là, actuellement, là, d'aller se mêler de ça, ça, c'est sûr que Ottawa va jamais donner son accord pour ça. Mais si Québec veut travailler sur une nouvelle voie, comme celle que je viens de te décrire, ils sont ouverts. Et là, Québec fera bien ce qu'ils voudront. Dans le fond, Ottawa, ils disent, regarde, dans ce processus-là, le test des valeurs, le test de français, il arrive avant l'octroi de la résidence permanente. Fait que Québec peut bien faire ce qu'il veut. Puis si, effectivement, il décide de faire passer le test, la personne le passe, là, tu lui donnes son certificat de sélection, puis après ça, ils obtiennent leur résidence permanente.
Bon, M. Trudeau, lui, s'est défendu hier d'avoir donné une directive pour régler hors cours avec SNC-Lavalin.
Bon, regarde bien, c'est l'histoire de l'heure là, en politique canadienne. Là. C'est l'histoire de l'heure parce que ça met sur la sellette Justin Trudeau lui-même et son équipe. Alors, je te rappelle l'histoire. SNC-Lavalin, accusé de fraude et de corruption en lien avec des pots de vin versés à la Libye entre 2001 et 2011. Bon, ils sont accusés au criminel. SNC-Lavalin, accusé au criminel, fraude, corruption. Cet automne 2018, donc. Une loi a été adoptée et mise en vigueur pour permettre à une entreprise accusée au criminel, donc une entreprise comme SNC-Lavalin, d'obtenir ce qui s'appelle un accord de réparation. Ça veut dire que l'entreprise, qui est accusée au criminel, donc, reconnaît ses torts, paye une grosse compensation, fait la démonstration qu'elle a assaini sa gouvernance, qu'elle a adopté des codes d'éthique, qu'elle a compris finalement ses erreurs, et en contrepartie, les accusations criminelles sont suspendues. OK? SNC-Lavalin, ça fait des mois qu'ils demandent un accord comme celui-là, donc qui est prévu par la loi, parce qu'ils craignent que si jamais ils sont condamnés aux criminels, puis le procès devrait commencer dans les prochains mois, ça veut dire non seulement qu'ils vont être privés de contrats au Canada, mais ils ne pourront pas appliquer sur certains contrats à l'étranger, notamment des contrats financés par la Banque mondiale, parce qu'une entreprise criminelle ne peut pas obtenir des fonds de la Banque mondiale. Et ça, là, franchement, là, Paul, ça met carrément en question l'existence même de l'entreprise. Elle pourrait se faire racheter pour une bouchée de pain, SNC-Lavalin, avec tous les employés de Montréal puis le siège social de Montréal. Et là, ce qui est reproché à Trudeau et à sa garde rapprochée, c'est d'avoir fait pression sur la ministre de la Justice, Mme Wilson-Raybould, l'ex-ministre de la Justice, pour qu'elle pour qu'elle négocie un accord de réparation. En fait, pour qu'elle donne une directive à ses procureurs de s'asseoir avec SNC pour négocier un accord de réparation. Et Trudeau dit « Non, c'est pas vrai cette nouvelle-là. J'ai jamais donné une directive. J'ai jamais imposé une décision à Mme Wilson-Raybould. »
Mais le choix des mots est assez important.
Exactement.
Parce que si je te donne pas une directive, mais si je t'explique en te regardant droit dans les yeux que ça serait bien, bien agréable que ça arrive...
Alors, c'est ça. Mais là, la ligne est mince. Mais tu sais que légalement, je l'ai revérifié hier, c'est absolument possible pour le premier ministre ou pour d'autres personnes de discuter avec Mme Wilson-Raybould de cet enjeu-là. OK? Tu as le droit de discuter. Tu n'as pas le droit de lui imposer une décision au nom du principe, du sacro-saint principe de l'indépendance de la justice, mais tu as le droit de discuter. Et Mme Wilson-Raybould, elle a le pouvoir, en vertu de la loi qui a été votée l'automne passé, de donner une directive à ses procureurs de s'asseoir avec SNC-Lavalin pour négocier une entente hors cour. Mais si elle donnait cette directive-là, il faut qu'elle le dise publiquement et qu'elle le publie dans la Gazette officielle. Et moi, je te dis, Paul, je regarde tous les politiciens se déchirer la chemise à Ottawa, puis je leur dis, c'est bien beau, là, mais pensez donc également au siège social à Montréal. Pensez donc aux près de 2000 emplois qui dépendent de l'existence de SNC-Lavalin. Oui, le principe sacro-saint de la justice est important, Paul, mais l'intérêt public ici, je pense, milite pour qu'il y ait une forme d'entente avec SNC-Lavalin à un moment donné. Ça n'a pas de maudit bon sens qu'on laisse partir ce siège social et tous les emplois qui viennent avec.
Merci, M. Bon week-end.
Salut, bonne journée.
Salut. 7h15, le pont Champlain.